enfants n'ont pas besoin d'argent. Les enfants, ils ont besoin de l'amour et de l'attention. C'est, je veux dire, disons que sans l'argent, vous pouvez offrir une super vie à vos enfants. Sans l'amour, l'affection et le temps, mais avec l'argent, vous ne pourrez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a un qui est pour moi indispensable et un autre qui n'est pas indispensable. Donc...
Mais se dire oui devant Dieu ou se dire même oui devant un officier d'état civil, devant une institution, se dire oui devant la communauté a beaucoup plus de poids et vous ancre, vous engage beaucoup plus que juste un oui en l'air, un accord tacite.
Et effectivement, j'ai rencontré ma femme dans le Vercors, dans un petit village de à peine plus de 1000 habitants. Et pourtant, j'ai eu des moments de ma vie où j'habitais dans des plus grandes villes, où j'ai rencontré beaucoup de monde, mais jamais la bonne personne. En fait, si vous voulez, vous avez besoin que d'une seule rencontre. On vous enlève depuis 40 ans, 50 ans, cet idéal. La famille, les enfants, tout ça, on vous balaye ça, on vous dit que c'est mauvais. Mais en échange, on vous offre quoi? Quel bonheur finalement? Vous ne faites pas d'enfants, vous vous amusez, ne restez pas, vous ne vous engagez pas, vous ne vous mariez plus. Mais en contrepartie, vous avez quoi?
En commentaire, c'est pas le bon moment qui permet d'avoir des enfants, c'est avoir des enfants qui permet le bon moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reste sur notre lancée et on va parler de natalité, de famille. Alors, quelle est l'idée de cet épisode? C'est d'aller répondre à des questions que vous m'avez envoyées sur Instagram après que j'ai publié un message où j'invitais tout le monde à se dépêcher de faire des enfants, puisque les chiffres de la natalité française ont battu des records de baisse une fois encore cette année. Mais surtout parce que ça apporte un bonheur immense et que c'est un cap incroyable à franchir dans votre vie d'adulte. On donne beaucoup à son enfant, mais on reçoit tellement plus. Alors c'est une chose de vouloir faire un enfant, mais encore faut-il en avoir les moyens, l'envie, la possibilité. Beaucoup de freins sont un peu secondaires, comme vous allez le découvrir, car on a bien souvent des pensées très limitantes, qu'il faudrait avoir des revenus conséquents, qu'il faut être établi, alors que c'est bien souvent créer une famille qui va justement vous établir. Pour ce podcast, je suis accompagné d'un autre père de famille et podcasteur, Grand Lucas, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et sur Instagram. Il travaille entre l'industrie et le bâtiment, il a deux très beaux enfants et on habite pas très loin, donc on vous propose aujourd'hui cette collab en deux épisodes parce qu'on a beaucoup parlé, mais on va répondre au mieux à vos questions, y répondre concrètement pour tenter de vous aider à prendre vos décisions et que vous connaissiez à votre tour la très grande joie d'être père. Comment tu vas, Lucas, ce matin ?
Eh ben, salut Baudouin, merci de m'inviter sur ton podcast. Tout va bien, surtout quand on parle de sujets comme celui-là. Moi, c'est un peu mon dada, voilà, c'est ma trame un petit peu sur les réseaux. Donc, ouais, un grand plaisir d'être là.
Alors, pour commencer déjà, Lucas, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ?
Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, c'est Lucas, j'ai la trentaine, j'ai deux enfants, un fils et une belle-fille. Donc. Et je suis le parfait français moyen qui travaille, qui a ses enfants avec un salaire moyen. Et donc, à travers mes podcasts, j'essaie vraiment d'essayer de donner des conseils sans être dans l'utopie, en fait, sans essayer d'être dans la caricature, essayer de vivre tout simplement de la bonne manière, être un bon parent, un bon père. C'est vrai que je parle plutôt aux hommes, je laisse le côté femme plutôt aux femmes justement. J'essaie vraiment d'être dans le concret, dans le retour d'expérience, hein, c'est ce que tu disais juste avant.
Ouais.
Je trouve aujourd'hui qu'on se pose beaucoup trop de questions finalement. D'ailleurs, je voulais rappeler pour commencer, c'est un sujet qui est super important, le fait d'avoir des enfants, de se poser la question de comment avoir des enfants. Mais il faut déjà avoir conscience que se poser la question, c'est pour moi déjà la preuve d'un problème dans notre société.
Oui, il y a une anomalie en quelque sorte. On a toujours fait ça depuis des dizaines de milliers d'années, et ça qu'on arrive à notre époque. Et d'ailleurs, dans le monde, moi j'aime bien comparer avec les autres civilisations, on est un peu les seuls dans le monde à se poser cette question parfois.
Exactement. Et même chez nous, on est à une ère aujourd'hui où la vie n'a jamais été aussi facile. On a accès au niveau de la santé, c'est facile. Au niveau du travail, même si on a l'impression que c'est difficile, c'est facile. On travaille dans des conditions qui sont faciles par rapport à nos anciens. Et donc, on se pose des questions que nos anciens ne se sont jamais posées, alors qu'on a une vie qui est beaucoup plus simple. Donc, il faut vraiment déjà avoir conscience de ça, parce que normalement, ça doit vous aider déjà à relativiser, quelle que soit votre situation.
Première question, comment conjuguer travail avec parentalité, pénurie de nounous et de places en crèche? Lucas, tu veux commencer?
Ouais, vas-y. C'est marrant parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent, le problème de la nounou, du quotidien en fait. Et moi, j'aime bien me dire déjà qu'on fait des enfants et tout de suite, on cherche à les mettre chez la nounou pour finalement, nous, aller travailler et on va faire garder notre enfant par une autre personne. Alors que, quel intérêt de faire des enfants si tout de suite, c'est pour le faire garder? C'est pour ça que le travail, c'est très important. Mais si vous avez à cœur de fonder un foyer soudé, d'être vraiment en accord avec vos enfants, avec votre partenaire, il faut déjà remettre un petit peu les choses en perspective et comprendre que le travail, ça doit presque être quelque chose de secondaire. Vous devez vraiment guider votre vie autour de votre famille et pas autour de votre travail. Sinon, ça ne marchera jamais, en fait. Et c'est sûr que, moi, quand on me pose la question, oui, comment je fais pour avoir des enfants parce que je pars le matin à 6h et je rentre à 20h, oui, c'est compliqué, en fait. Mais plutôt que de se demander comment avoir des enfants, demandez-vous si votre boulot, c'est le bon, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas simple, il faut accorder, il faut prendre le temps, c'est des choses qui se mettent en place sur plusieurs années, mais vraiment tourner votre vie dans tous les aspects de la vie, que ce soit le côté privé, le côté professionnel, peu importe, mettez toutes les chances de votre côté pour que votre quotidien se passe bien. Et oui, avoir des enfants, conjuguer la paternité ou la maternité et le travail, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à la question dans sa globalité. Est-ce que c'est bon que vous fassiez 50 heures par semaine et que votre femme aussi fasse 50 heures par semaine? Est-ce que plutôt vous n'avez pas une autre manière de voir les choses, une autre manière de vivre qui vous permettra finalement de plus poser cette question-là?
On fait des enfants et très rapidement les enfants vont être placés à la crèche et à partir de là on va faire des démarches auprès de la CAF pour être remboursé. On va travailler pour dépenser de l'argent qui va servir à payer quelqu'un pour garder notre enfant. Alors évidemment vous avez vos travails, vos femmes ont sans doute leur métier, elles sont passionnées, etc. Mais c'est vrai que c'est une réflexion à avoir. Je travaille en fait pour rémunérer quelqu'un qui va garder mon gosse.
C'est ça.
Pourquoi directement ne pas garder mon enfant? Il n'a même pas conscience d'être séparé de sa mère pendant les premiers mois de sa vie extra-utérine. Donc il a un vrai besoin physiologique d'être contre sa mère puisqu'il a encore l'impression d'être elle. Ils ne font qu'une personne quasiment. Le bébé a l'impression de faire partie encore de sa mère de longs mois après la naissance.
Surtout si je peux rajouter quelque chose, ça paraît utopiste quand on se pose la question, qu'on est dans le faste de la vie, mais ça paraît utopiste parce que justement on est dans le quotidien, on ne prend pas le temps en fait de réfléchir à sa vie sur le long terme très souvent. Et c'est pourtant une question qu'on devrait avoir dès le plus jeune âge, dès qu'on rentre dans la vie active, c'est ok, quel genre de vie je veux dans 10-15 ans? Et de cette réponse-là, de cette réponse-là, on va faire les bons choix petit à petit et ça va nous amener à un train de vie qui va être en relation avec nos souhaits, en fait. C'est sûr que si vous êtes à fond dans vos études, dans votre boulot, jusqu'à vos 30 ans ou jusqu'à vos 25 ans et que du jour au lendemain, vous voulez avoir une vie toute calme à la campagne pour avoir vos enfants, ça ne marche pas, en fait. C'est une continuité, c'est un projet qui se fait sur le long terme. Donc, pour répondre le plus simplement à cette question, oui, c'est compliqué si vous faites les mauvais choix. Faites les bons choix depuis le début, le plus rapidement possible. Trouvez un métier qui vous dégage du temps. Pensez que les horaires d'un enfant, quasiment toute sa scolarité, c'est les mêmes pour tout le monde. D'accord ? C'est du lundi au vendredi. Le mercredi, en général, les enfants ne travaillent pas. Eh bien, visez un métier qui va plutôt vous amener à faire ce genre d'horaire. Déjà, ce sera un gros boulot parce que trouver des gens qui vont garder vos enfants si vous bossez le week-end, trouver des gens qui vont garder vos enfants le soir, oui, c'est compliqué, mais en fait, moi, par exemple, j'ai pas besoin de trouver une nounou, j'ai pas besoin de tout ça parce qu'avec ma femme, on a fait les bons choix et qu'aujourd'hui, c'est des problèmes qui ne sont pas les nôtres finalement.
Derrière, on a là, c'est mon fils qui nous en fait voir des vertes et des pas mûres, là, il fait que crier, mais bon, là ça se calme. Donc voilà, ça c'est la réalité de la vie de famille. C'est joyeux, ça fait du bruit, mais bon, ça reste du bonheur. Ok, alors question suivante. Je voudrais bien contribuer au repeuplement français, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. Ça c'est une question directement autour de la fertilité.
Bon, moi j'ai déjà une idée bien là-dessus, hein, mais ça c'est encore une fois. Moi j'essaie vraiment d'être dans la réflexion globale. En fait, il faut vraiment modifier complètement sa manière de vivre, sa manière de voir les choses. Et ça, ça vient un peu avec une question qui viendra peut-être tout à l'heure par rapport au bon âge pour faire des enfants. Et bien, en fait, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, c'est aussi parce que votre manière de vivre, alors attention, j'exclus les problèmes de santé et tout ça, mais de manière globale, on s'alimente de moins en moins bien, on est de plus en plus stressé, on est psychologiquement plus du tout dans l'optique de faire des enfants, de fonder un foyer, tout ça, et c'est des choses qui ont un impact réel sur notre corps, sur la manière de fonctionner des femmes. Et bah forcément, on arrive avec des femmes qui, soit parfois, effectivement, deviennent presque stériles très jeunes, ou des femmes qui, à un âge un petit peu plus avancé, arrivent à se dire, bon, ça y est, j'ai bien profité, maintenant je vais faire un enfant, et paf, c'est trop tard. Donc en fait, c'est encore une fois cette manière de voir les choses qui doit être vraiment globale. Parce que si c'est je m'amuse pendant 20 ans et puis une fois que j'ai 40 ans, ça y est, je me pose et ça y est, je fais un enfant, ben, ça ne marche pas comme ça la vie en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Plus on attend, moins on fait attention à sa santé et plus potentiellement, eh ben, on peut arriver un jour à vouloir des enfants et à ne pas pouvoir. Avoir des enfants, c'est une chance, c'est un don de Dieu quand on est croyant et c'est quand même quelque chose de miraculeux d'avoir un enfant. Il faut pas jouer avec ça, il faut pas se dire que on peut choisir un peu comme quand on a envie. Et puis, bah, finalement, le jour où on se retrouve confronté à la réalité, vivre quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire, quoi.
Ouais, bah le mode de vie hyper important. Moi, autour de moi, bah, j'avais des personnes qui avaient déjà passé la trentaine, donc qui n'étaient pas au pic de leur fertilité, qui pouvaient être fumeurs, qui n'avaient pas une hygiène de vie saine. Donc, ça a été plus difficile. Donc, après, évidemment, les gens qui ont des soucis de santé, enfin, des soucis, pardon, de tuyauterie, je sais pas comment dire, mais de fertilité, persévérer, parce que sachez que maintenant, la moyenne pour tomber enceinte, enfin pour un couple français, c'est 1 an de rapport régulier quasiment, ou 6 mois ou 1 an, je sais plus. Mais en tout cas, on est vraiment arrivé à des périodes qui sont très longues. Donc persévérer, essayer de tout faire donc dans votre tout ce qui est votre possible dans votre environnement et dans votre hygiène de vie, mais persévérer parce qu'il y a des gens, ils ont attendu. Moi, j'ai des amis, ils ont attendu 3 ans, je crois, ou 2-3 ans, alors que tout allait bien. Ils n'étaient pas fumeurs, ils avaient plutôt une bonne hygiène de vie. Enfin, vraiment, monsieur et madame, tout le monde, pas de sorties excessives. Ils étaient déjà mariés depuis quelques années. Ça a fini par arriver et après, ils ont eu un deuxième rapidement, etc. Donc, en fait, ça a un peu débloqué la
Bien sûr, mais c'est
situation.
ça, c'est très psychologique. C'est
Ouais, il y a aussi du psycho, ouais.
moi, alors je me permets pas trop de rentrer sur certains sujets que je ne maîtrise pas assez, mais ma femme s'y connaît beaucoup plus que moi d'ailleurs là-dessus. Mais on sait aujourd'hui que l'aspect psychologique au niveau de la fertilité des femmes est vraiment un aspect presque primordial. C'est peut-être même l'aspect le plus important pour une femme pour réussir à tomber enceinte dans les bonnes conditions. Donc vraiment, si vous avez du mal à tomber enceinte, essayez vraiment d'optimiser votre mode de vie, essayer de vous apaiser, essayer d'avoir un mode de vie moins dans le speed et alimentez-vous comme il faut. Et il y a aussi un autre aspect, hein, mais tout ce qui est les médicaments, la pilule, tout ça, c'est des perturbateurs hormonaux, endocriniens. Enfin, il y a vraiment un aspect chimique. Donc malheureusement, plus vous touchez à la chimie de votre corps, plus potentiellement ça peut vous abîmer. Donc après, bon, là on pourra en parler aussi pendant tout un podcast hein, de ça, de la contraception, pardon. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà. Globalement, faites attention à votre corps et à votre esprit, et normalement, ça devrait aller vers le mieux.
Ok, alors question suivante. Difficulté à trouver la personne car métier dans la France périphérique et donc isolement. Bah, là, tu vas pouvoir répondre à ça, Lucas, parce que toi, au départ, tu viens du Vercors, je pense. C'est ça, hein,
J'ai
au
grandi,
départ.
ouais,
Ouais,
une
t'as
bonne
grandi dans le
partie de ma vie
Vercors
dans le
et t'as
Vercors.
rencontré ta femme là-bas. Donc, ouais, Vercors, c'est très enclavé. C'est ouais, France périphérique. Donc, tu vas pouvoir répondre à cette question. Donc, en gros, on a quelqu'un qui s'inquiète donc de trouver la bonne personne, bah, forcément dans des zones où on voit moins de monde, entre guillemets, où la vie sociale est moins facile. Là-dessus, quel conseil tu pourrais donner?
Eh bien alors, tout simplement, privilégier la qualité à la quantité en fait. Parce que moi, j'ai donc effectivement grandi une bonne partie de ma vie dans le Vercors et ensuite j'ai bougé. J'ai vécu à Saint-Étienne, à Lyon et j'ai vécu dans le sud, sur la côte, voilà, dans des petites villes ou des petits villages, mais qui brassent énormément de monde. Et effectivement, j'ai rencontré ma femme dans le Vercors, dans un petit village de à peine plus de 1000 habitants. Et pourtant, j'ai eu des moments de ma vie où j'habitais dans des plus grandes villes, où j'ai rencontré beaucoup de monde, mais jamais la bonne personne. En fait, si vous voulez, vous avez besoin que d'une seule rencontre. On est censé, alors c'est de moins en moins vrai aujourd'hui parce que les gens sont perdus, mais on est censé trouver son âme sœur, et c'est pour la vie en fait. Donc vous avez besoin d'une seule personne avec qui vous allez accrocher. Donc prenez votre temps, soyez en accord avec ce que vous recherchez aussi, parce que si vous êtes quelqu'un si vous visez une vie tranquille à la campagne, eh ben, c'est pas en ville, là où il y a le plus de monde et là où vous allez faire le plus de rencontres, que vous avez plus de chances de rencontrer la femme qui voudra vous suivre à la campagne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, parce que finalement, en ville, on a, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a moins de possibilités de trouver des personnes qui correspondent vraiment à nos projets de vie, en fait. Donc finalement, c'est plus dans la France périphérique qu'on trouvera une femme qui veut bâtir un foyer. Et en effet, on a les gens, comme on dit, à la campagne, ont beaucoup moins d'une perspective... plus de perspectives affectives. Ils sont moins dans la rencontre, dans la consommation de la relation, mais plus dans le fait de s'établir et construire des foyers. Et on a l'impression que les gens ils s'établissent beaucoup plus vite à la campagne.
Exactement, parce qu'il faut vraiment avoir conscience que la plupart les rencontres les plus faciles ne vous apporteront jamais, en tout cas, vous aurez beaucoup moins de chances de trouver votre âme sœur, la femme avec qui vous allez faire votre vie tranquillement, faire des enfants, construire un foyer. Parce qu'en fait, les femmes bien, on ne les voit pas. On ne les voit pas sur les réseaux, on ne les voit pas dans les bars, on ne les voit pas dans les soirées. C'est des femmes qui ne se montrent pas, même au travail, qui ne vont pas faire de bruit. Et c'est ces femmes-là que vous allez rencontrer quand vous êtes dans le bon état d'esprit, quand vous non plus, vous n'allez pas chercher à passer votre vie dans les bars, dans les soirées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est vraiment ça, c'est... Je fais ma vie en tant qu'homme ou en tant que femme, je parle pour les hommes, mais ça marche aussi à l'inverse, en accord avec ce que je recherche. Et naturellement, le jour où je vais tomber sur la personne qui va coller avec mes besoins, mes envies, on va s'attirer en fait. Et ça va potentiellement matcher. Mais chercher la femme de sa vie ou l'homme de sa vie dans les soirées, dans les speed dating ou je ne sais quoi, ou sur les réseaux, ça marche très rarement.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où en fait tous ces endroits-là sont sont un peu le marché de la relation amoureuse ou juste la relation sexuelle. Mais donc c'est le marché et donc l'offre vient se positionner sur ce marché. Mais c'est généralement un marché de la relation courte sans lendemain, ou bien c'est des gens qui veulent se mettre en couple, mais qui ont souvent, et ça c'était très intéressant ce que tu disais dans un de tes épisodes, c'est le fait que les gens se mettent en couple, mais avec déjà l'idée derrière qu'un jour ça va se terminer, quoi, c'est pas du long terme. Donc c'est des gens, ça va être un marché où les gens viennent prendre du temporaire. Alors oui, il y a des gens, ils veulent être en couple. Ils le disent sur Tinder, les gens, ils disent « pas sérieux, passez votre chemin ». Mais en fait, en général, c'est pas pour du très sérieux quand ils sont sur Tinder. C'est que c'est des gens qui vont se dire « voilà, je vais faire 1, 2, 3 ans, 4 ans, et même plus si ça se passe bien avec la personne ». Si on veut se mettre dans une vraie relation amoureuse durable, il faut jamais se dire je garde cette idée du divorce, de la rupture, etc.
C'est quelque chose que j'ai vu surtout chez les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont une envie profonde de fonder un foyer, mais qui se disent qu'elles ne doivent pas mettre ça en avant, sinon elles vont intéresser personne. Tu vois, ce truc de moi j'aimerais trouver un homme qui est là pour moi, qui prend soin de moi, qui me fait des enfants, qui est un vrai père de famille, un vrai mari, mais quand elles font des rencontres, elles se la jouent, moi je suis autonome, moi j'ai besoin de personne. Elles se font une petite carapace. Le problème, c'est qu'un homme qui va avoir envie de fonder un foyer, qui va avoir envie d'une femme tranquille, fidèle, quand il va vous entendre, quand il va entendre ce discours-là, il va fuir.
Ouais,
en fait.
Ça va pas le rassurer.
Exactement. Donc en fait, même si vous avez, franchement, même si vous avez 18 ans, 20 ans, même si vous êtes jeune, si vous avez au fond de vous l'envie de fonder un foyer, d'avoir une famille et que votre but dans la vie, c'est ça, dites-le, en fait. Oui, ça va vous fermer beaucoup de portes, mais finalement, c'est des portes qui ne serviront à rien, en fait, qui vous feront une micro-expérience. Vous allez enchaîner les relations sans jamais trouver la bonne. Alors que si vous êtes droit dans vos pompes et que vous annoncez votre réel besoin, et bien le jour où la personne qui cherche la même chose que vous va passer devant vous, ça va matcher. Dites, criez haut et fort ce que vous voulez en fait, tout simplement. Parce que très souvent, on a des quiproquos, des malentendus, on se met en couple avec quelqu'un parce que c'est l'euphorie du début, parce qu'on s'est rencontré dans un moment où on était en vacances, donc on n'était pas dans le faste de la vie, on n'était pas dans le réel, on était plein de bonnes idées et tout. Au début, c'est super, et quand ensuite le quotidien arrive, et qu'au bout d'un an, un an et demi, eh ben, on se rend compte de réellement qui on a en face de nous et des objectifs de l'autre, ben, en fait, ça ne matche pas, et on se sépare, et on a perdu 2 ans.
Ouais. Aussi, quand il y a ces personnes, parce que, en effet, moi, je connais, j'ai des amis qui indiquent clairement sur leur profil Tinder. D'ailleurs, on va en parler de ça, c'est totalement mortifère. Ou bien dans leur façon de nouer des relations avec des hommes ou des femmes. Ils vont dire qu'ils veulent une relation sérieuse, mais en fait, quand vous dites sérieuse, ça peut pas être... 1 an, 2 ans, 3 ans, puisqu'en fait, pour construire son foyer et pour construire quelque chose de sérieux, il faut que, de base, il faut que vous partiez en disant que c'est pour la vie. Sinon, vous ne pouvez rien construire de vraiment durable et vous pouvez pas partir en vous disant « Si ça se passe mal, je vais aller refaire ma vie ailleurs parce que vous allez détruire une famille avec des enfants qui auront des parents qui ne vont plus s'aimer, des enfants qui vont devoir aller un coucher le papa, un coucher la maman. » Ça va déséquilibrer leur existence. Et un des maux de notre société, et c'est un tabou puisque ça vient directement effriter ce totem du divorce libre et absolu. Quand les gens vont vous dire « oui, moi je veux du sérieux », dites-leur « attends, c'est quoi ton sérieux ? Est-ce que ton sérieux c'est créer une famille et est-ce que c'est pour la vie ?» Alors je vous dis pas, évidemment, je suis pas venu voir ma femme en disant « non, mais attends, mais je t'explique, moi je t'embrasse ce soir, c'est pour la vie. » Évidemment, c'est pas ça l'idée, mais rapidement, vous n'êtes pas obligé d'arriver dès le premier soir où vous la rencontrez en parlant de famille, mais ça doit arriver rapidement et au moins voir ce que ça veut dire pour elle sérieux. Parce que si sérieux, je me répète un peu, mais je vais terminer là-dessus, mais si sérieux, ça veut dire emménager ensemble au bout de 2 mois et juste faire quelques années ensemble, avoir là un appartement ensemble et voyager ensemble, c'est pas sérieux ça. Ça, c'est juste avoir une relation narcissique avec juste un compagnon de voyage, un compagnon d'existence de jouisseur. C'est pas du sérieux. Le sérieux, c'est pas juste emménager ensemble et faire des trucs ensemble. Ça, c'est rien. Avoir du sérieux, c'est lier nos destins et créer une famille et faire une descendance, voilà, bâtir vraiment quelque chose, une relation qui soit féconde, une relation qui soit pas tournée uniquement vers l'assouvissement de vos plaisirs mutuels, de vos plaisirs dans les voyages, de vos plaisirs dans les sorties avec les amis. Un couple, faut qu'il soit fécond. Alors, question suivante. Paris et proximité est inabordable pour les familles et en lointaine banlieue, quel travail ? Bon, bah alors ça, c'est plus une question à contrario de la France périphérique qui va me concerner parce que moi, quand j'ai rencontré ma femme à Lyon et quand on s'est marié, on habitait à Paris et on a fini par partir de Paris, je vais pouvoir vous raconter et vous donner un peu le tuto, entre guillemets. Alors, en effet... Nous, un des gros freins, ça a été en effet les prix de Paris et la qualité de vie. Donc moi, j'habitais en banlieue, j'habitais à Colombes dans le 92. J'allais assez rapidement à mon travail à l'époque à Valeur, qui est parce que c'est près de l'Arc de Triomphe, parce que voilà, je m'étais acheté un scooter 125, donc ça allait très vite. Et mon boulot était du bon côté de Paris. Si je travaillais de l'autre côté de Paris, ça aurait été l'enfer, etc. Mais en l'occurrence, la vie était extrêmement chère. Se loger en banlieue, j'avais 1100 euros de loyer et j'avais pas un gros salaire du tout. Ma femme, elle était indépendante. Et après, on a eu notre enfant et elle s'en est pas mal occupée, donc elle travaillait moins. Et du coup, ben, voilà, les revenus, ça a été très rapidement compliqué. Et un jour, nous, on a pris la décision qu'on allait partir. Et en 2 mois, on a quitté Paris quasiment. Voilà. Alors, on a été aidé par nos familles parce que on a été hébergé dans nos familles, etc. Moi, j'ai pu arracher entre guillemets un peu de télétravail, etc. Je faisais les allers-retours, etc. à Paris. C'est pas l'idéal. Je travaille encore un peu comme ça. J'habite dans le Dauphiné et je fais des allers-retours à Paris. C'est pas terrible, mais au moins j'ai pu quitter Paris, récupérer du pouvoir d'achat, on va dire, hein, très trivialement, mais surtout j'ai pu récupérer une qualité de vie. Voilà, maintenant je peux emmener mon fils se balader quand il veut dans la nature en pleine journée. Moi, mes pauses, je me balade dehors au grand air, je fais 10 minutes de voiture, je suis dans le Vercors, je peux être voilà, je suis dans la Drôme des Collines. Vraiment, j'ai accédé à une qualité de vie, mais en fait, il faut prendre le choix, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui pareil disent ah ouais, non mais moi je vais quitter Paris, j'en ai trop marre, etc. Les années passent et en fait ils ne sautent jamais ce pas, parce qu'en effet, quand on est à Paris, si on peut pas avoir télétravail et faire des allers-retours, bah c'est pas possible, donc il faut aller trouver un travail en périphérie. Dites-vous que moi je suis dans le journalisme, j'ai réussi à le faire, donc pour tous ceux qui travaillent pas dans le journalisme ou dans ces métiers-là et qui ont un réseau en dehors de Paris, faites-le le plus tôt possible, construisez-vous votre réseau professionnel ailleurs, parce qu'en fait Paris va vous absorber, parce que petit à petit vos enfants ils vont aller dans la bonne école, ils vont avoir les bons copains, ils vont avoir les bonnes activités, et plus vous attendez, plus ça va être dur de quitter Paris, donc faites-le vite. Nous, notre gamin il avait 1 an, hop on est parti, c'est terminé, c'est... Moi j'ai renoncé à pas mal de choses, mais j'ai une qualité de vie, je sais que ma femme là où on habite va pas se faire agresser, elle va pas se faire dévisager à chaque fois qu'elle va sortir, moi j'ai moins de chances de me prendre un coup de couteau pour une embrouille, pour un mauvais regard, voilà, on vit mieux, donc en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est faites-le vite, n'attendez pas je sais pas quoi, la situation, le bon taf, plus vous attendez plus ça va être long. Moi je connais plein de gens, ils avaient l'intention de le faire, le boulot les a absorbés et ainsi de suite, et la vie de famille les a aspirés. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter Lucas de ton côté là-dessus.
Bah oui, ça revenait à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le fait que vraiment un projet de vie ça se fait sur le long terme, et que bah comme tu viens de le dire effectivement, plus on attend, plus on s'ancre en ville, Paris ou ailleurs, mais plus on s'ancre dans un quotidien, plus on va progresser normalement au niveau de son boulot, au niveau de son salaire, au niveau de son logement, et bah plus ce sera, plus ces choses-là seront ancrées, plus ce sera difficile ouais. Effectivement de changer.
Quand si vous sentez, sont là.
C'est ça. Si vous sentez que sur le long terme vous avez besoin de la ruralité, de la campagne, ou à l'inverse vous avez besoin de la ville et vous êtes en campagne, et ben bah, en fait partez, même si effectivement ça va être difficile. Mais dans 2-3 ans, quand vous regarderez en arrière, vous aurez accompli quelque chose. Alors que si vous attendez, dans 3 ans, vous serez toujours au même point. Alors c'est con, hein, c'est un peu le truc de motivation à 2 balles qu'on entend un peu dans tout, mais plus tôt vous commencez, plus loin vous irez, en fait, tout simplement.
Et voilà, et bah, typiquement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la garde des enfants. Mais si vous voulez, si on avait voulu avec ma femme rester à Paris, si l'un de nous avait vraiment voulu rester, et bah, il aurait fallu que ma femme se reprenne un travail beaucoup plus rapidement. Et du coup, on aurait renoncé à s'occuper des enfants. Là, l'avantage, c'est que ma femme, elle fait comme elle veut. Elle est indépendante, donc elle travaille quand elle veut. Et elle peut s'occuper de notre fils. Elle est heureuse parce qu'elle est dans un super environnement. On est dans une super belle région. Voilà, je vais donner les moyens entre guillemets de pouvoir continuer à s'occuper de notre enfant, et du coup, c'est super. Elle est contente parce qu'elle n'avait pas envie de prendre un travail, un taf alimentaire. On a fait d'une pierre 2 coups, j'ai envie de dire. Question suivante, l'important est de se consacrer du temps à ses enfants. L'argent n'a aucune valeur à leurs yeux. Ben, ça, c'est intéressant. C'est voir du point de vue de l'enfant. Ouais. Je sais pas si, vas-y, réponds si tu veux, Lucas.
En fait, il y a plusieurs. Déjà, il n'y a pas une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, tourner leur vie autour de l'argent, et une fois qu'ils auront réussi à vraiment poser leur vie, avoir une bonne situation, ils vont faire des enfants, tout va bien se passer, et eux, ils vont vous faire un retour en vous disant « Ouais, il faut de l'argent pour éduquer ses enfants, etc. etc. » Moi, je pense qu'il faut être... encore une fois, en adéquation avec ses envies, avec ses besoins. Moi, je connais des gens qui sont incapables de passer un week-end tranquille chez eux avec leurs enfants. C'est dans leur gène, c'est dans leur nature, ils ont besoin de bouger tout le temps. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils vivent leur vie de famille et qu'ils sont heureux, en fait. Donc, ces gens-là, oui, ils ont besoin d'argent. Mais
dans le sens, faut qu'ils aillent voyager.
Ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de faire des sorties, des activités et tout ça. À l'inverse, ma femme et moi, on est très casaniers. Et moi, mes meilleurs moments de vie, mes meilleurs week-ends, c'est à la maison, tranquille, avec mes petits et ma femme. Mmh. Donc en fait, il faut se connaître, tout simplement, et se dire que, ok, moi j'ai besoin de beaucoup d'argent pour vivre, et je fais le pari de faire tourner ma vie autour de ça, il faut que j'ai de l'argent pour réussir à vivre convenablement. Moi, ce n'est pas mon cas, moi je pense que les enfants n'ont pas besoin d'argent, les enfants, ils ont besoin de l'amour et de l'attention. C'est, disons que Sans l'argent, vous pouvez offrir une super vie à vos enfants. Sans l'amour, l'affection et le temps, mais avec l'argent, vous ne pourrez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a un qui est pour moi indispensable et un autre qui n'est pas indispensable. Donc après, c'est qu'une question de choix. Pour moi, non, l'argent n'est pas un facteur obligatoire pour offrir une vie convenable à ses enfants. Loin de là.
Ouais, et c'est intéressant cette phrase, et ça me fait penser à une autre qui s'appelle, une phrase que j'ai vue sur Instagram, c'est en anglais, mais qui disait la seule personne qui se rappellera des soirs où vous êtes rentré tard, c'est votre enfant.
Exactement.
Dans le sens où, bah, en fait, comme disait l'autre en commentaire, là, les enfants, l'argent n'a aucune importance à leurs yeux, bah, c'est vrai que votre enfant. Oui, il va peut-être vous réclamer des Air Max que vous ne pourrez pas lui payer, mais en soi, ce qui fera vraiment la différence pour lui, c'est d'avoir eu des parents présents qui s'aiment, qui ont été présents pour lui, qui ont fait des trucs super avec lui, etc. Et moins les cadeaux que vous allez lui offrir ou des voyages géniaux, même si ces voyages, ça peut être l'occasion de très bons souvenirs et de très bons moments en famille. Mais en effet, par contre, un père absent, ça, il s'en rappellera. Un père qui est rentré à 20h tous les soirs, chez l'assistante maternelle de mon fils, il y a un gamin, depuis qu'il a 3 mois, il fait 5 jours sur 7 chez la nounou. Il fait 9h, 18h quasiment. C'est sa nounou qui a plus vu. La nounou a plus vu cet enfant que ses propres parents. C'est un truc de malade. Alors, ça va pas forcément faire des gens brisés, etc., mais ça laissera une trace, ça laissera forcément une trace. Et alors, j'espère que ces parents pourront rapidement s'occuper de leurs enfants maintenant qu'ils auront gagné plein d'argent, mais il y a des salaires qui n'en valent pas le coup. Honnêtement, quand vous n'avez pas une grosse rémunération, si vous n'avez pas la possibilité d'un coup de gagner énormément plus, sacrifier les 2 premières années de relation avec votre enfant pour gagner 200 euros par mois, j'ai l'impression... Alors je sais, hein, c'est la réalité matérielle parfois sont cruelles, mais j'ai l'impression que parfois ça vaut pas le coup de faire autant de sacrifices.
En fait, simplement, faites un constat autour de vous, avec les gens que vous connaissez un petit peu. Demandez-leur c'est quoi qui a été le plus difficile pour eux dans leur enfance. Personne ne vous dira jamais que les traumatismes de son enfance, c'est le manque d'argent.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire ? Les vrais traumatismes pour un enfant, c'est... le manque d'affection, c'est des parents séparés, des parents qui n'ont pas le temps, c'est une instabilité dans la vie. Mais moi, je connais personne avec qui j'ai eu une discussion sur notre passé, sur notre enfance, et qui m'a dit « Ah, moi, j'ai vraiment eu une enfance super, mais alors par contre, merde, putain, on ne pouvait pas partir en vacances, et puis mon père, il avait une voiture de merde. » Je n'ai jamais entendu ça, en fait. Donc, normalement, juste ce simple constat permet de répondre à cette question. Non, l'argent est secondaire. Et encore une fois, on amène beaucoup le sujet de l'argent quand on parle d'enfants, quand on se pose des questions sur est-ce que je dois avoir des enfants et tout ça, mais finalement aujourd'hui, votre argent, il vous sert à quoi ? À quoi l'argent va vous servir au quotidien avec vos enfants ? À part, leur acheter des bons vêtements, dire aujourd'hui on trouve des vêtements pour 3 fois rien pour les enfants, leur offrir une belle maison. Moi je vous le dis, mes enfants, ils ont connu l'appartement de 30 mètres carrés, et la maison en campagne avec grand jardin et tout. C'est un plus, c'est génial, mais on a passé des moments fantastiques avec eux dans des tout petits appartements, en fait. Donc, c'est un plus, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des vrais fondamentaux, en fait. Voilà. C'est vraiment ça, la réponse. C'est plus vous aurez de l'argent, plus vous aurez un beau cadre de vie à leur offrir, meilleur ce sera, mais pas au détriment des fondamentaux, l'amour, le temps, l'énergie, parce que si vous mettez toute votre énergie pour apporter votre salaire à la maison et qu'après vous n'avez même plus d'énergie pour lire une petite histoire le soir, ouais, pour passer 10 minutes à jouer avec eux, pour le week-end aller frapper dans un ballon avec votre fils pendant 1 heure ou 2, pour écouter quand vos enfants auront des problèmes un peu plus tard et qu'ils auront besoin de discuter. C'est pas l'argent qui offrira ça à vos enfants, en fait.
Ouais. Et pour vraiment les situations extrêmes où il y a des... où vous avez un besoin de plus travailler parce que voilà, vous en sortez pas, vous êtes lancé dans des crédits. Dites-vous que les premières années sont les plus importantes pour vos enfants. Quand ils seront au collège, au lycée, bon bah oui, ils ont moins besoin de la présence de leurs parents. Donc là, vous pourrez faire des heures sup, mais les premières années, honnêtement, en plus, c'est les enfants sont les plus merveilleux à cet âge-là, parce que alors oui, toute votre vie avec vos enfants, je vous souhaite beaucoup du bonheur et de l'entente, etc. Mais forcément, quand ils vont grandir, il y aura peut-être des accros, etc. Mais les moments les plus heureux avec vos enfants, là où ils sont dans leur innocence, là où ils sont émerveillés de tout, ils sont contents de tout, de n'importe quel jeu trop tout bête, tout simple, ça va être leur 6, 7, 8, 10 premières années. Mon fils, il a bientôt 2 ans, mais c'est une joie constante, ce petit. Il est tout le temps joyeux, tout le fait rire, tout l'amuse, etc. Et je pense que ça va durer jusqu'à ses 4-5 ans, quand il en aura marre de juste s'amuser à jouer avec des noix et s'amuser avec rien. C'est hyper drôle, cet âge-là. Il y a une joie constante avec les enfants qui est tellement belle et qui apporte tellement de joie dans votre famille. Ne passez pas à côté de ces premières années, parce que vraiment, vous ne retrouverez pas ça plus tard, je pense. Question suivante. Alors, si tu n'as pas de situation, comment tu peux élever un gosse décemment en vivant toi-même ta vie? Telle est la question. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter?
En fait, il faut, encore une fois, pour moi, il faut vraiment accepter que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une super situation, on ne peut pas être un père de famille dévoué et à la fois avoir beaucoup d'argent, être un super pote au quotidien. On ne peut pas tout avoir. Avoir une bonne situation, ça veut tout et rien dire. Moi, j'ai un nombre incalculable d'exemples de familles avec de l'argent, super situation, bonne bagnole, belle maison, en surface, tout est génial. Il y a tout, normalement, il y a tout pour que tout se passe bien. Et en fait, rien ne va. Et quand tu grattes un peu et que tu rentres un peu dans le perso, tu te rends compte qu'en fait, le couple, il n'y a plus rien qui va parce que chacun est dans son business, chacun est dans son job, et du coup, il n'y a plus le temps pour s'occuper de son couple. Les enfants, ça ne va pas parce que les enfants sont nerveux, parce qu'il faut se lever à bloc le matin, il faut rentrer le soir et tout de suite être pressé, vite faire les devoirs. En fait, on ne peut pas tout avoir. Moi, aujourd'hui, j'ai une situation qui me convient parfaitement parce que ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, je l'ai, c'est-à-dire du temps avec ma femme, du temps avec mes enfants et un chez-moi dans lequel je suis bien. Mais forcément, c'est au détriment, entre guillemets, d'autres choses. Moi, j'adore le sport, j'adore la moto. Eh bien, c'est secondaire, en fait. Je ne fais quasiment plus de moto. Du sport, j'en fais quand j'ai le temps. Mais c'est pas grave, parce que j'ai fait mes choix. Je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas passer des super week-ends à faire de la moto et être avec mes potes. Et en même temps, être un gars, un mari qui est là pour sa femme, ça marche pas en fait. Donc vraiment, accepter que dans la vie, il faut faire des choix. Vous voulez de l'argent, vous n'avez pas la chance d'être tombé dans une famille avec beaucoup de moyens qui va vous permettre de tout de suite avoir une super maison et tout ça. Si vous voulez de l'argent, va falloir cravacher. Va falloir être un homme qui passe tout son temps au boulot, à cravacher, à gagner de l'argent. Eh bien, vous ne pourrez pas être un bon mari, vous ne pourrez pas être un bon père de famille. Ça ne va pas ensemble, en fait. Il y a des gens qui réussissent à avoir des choses sans trop faire d'efforts. C'est tant mieux pour eux, mais ce n'est pas une réalité. Moi, je ne suis pas né dans une famille pleine d'argent, avec une situation hyper posée, hyper stable. Eh bien, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Alors, grâce à Dieu, j'ai eu des choses qui, pour moi, sont... Je m'estime très très chanceux d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, mais même si demain je le perdais, c'est pas grave. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le bonheur de ma femme, le bonheur de mes enfants et être avec eux, en fait. Donc faites vos choix, voyez vos priorités et consacrez votre temps et votre énergie à ces priorités. Le reste, malheureusement, ça viendra si vous avez de la chance, mais il faut être capable de mettre ça de côté, en fait. Si vous attendez toute votre vie d'avoir une bonne situation et que ça n'arrive jamais, ce qui est le cas de la majorité des gens, dire les 3/4 des gens que vous rencontrez dans la rue, ils galèrent à payer leur voiture, ils galèrent à payer leur loyer, ils galèrent à partir en vacances, c'est une réalité pour 80% des gens, j'ai envie de dire. Donc si vous attendez de faire partie de la petite élite qui va encore, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'explosion des prix et du coût de la vie, si vous attendez d'avoir la situation parfaite pour avoir un enfant, mais vous n'en aurez jamais en fait.
Ouais. Exactement, il y a un message de Pierre qui disait « J'ai un enfant avec quelqu'un que je connaissais depuis 2 mois, faut pas se poser la question, faut foncer. » Ouais, parce qu'en fait, il y a parfois des situations où des gens, il y a un accident, etc., ils ont un enfant très vite, ils gardent cet enfant, etc., et finalement, en fait, ça a lancé leur coup, qui a donné une raison, qui a créé un élément d'unité fondateur à leur couple et qui va le cimenter. Donc, il y a aussi... alors, je ne dis pas qu'il faut encloquer la meuf avec qui vous êtes tout de suite, mais sachez que si vous avez un enfant rapidement, cet enfant va donner la fécondité à votre couple et va donner un sens à votre couple. Et en fait, c'est le meilleur moyen de le cimenter, je pense, plutôt que rester dans un couple où on est dans la satisfaction mutuelle. Je lui donne ça, elle me donne ça. Allez, un peu de baise, un peu de voyage, un peu de bon resto, un peu de sortie avec des copains, mais je garde un peu mon indépendance. Là, vous êtes juste dans une relation narcissique mutuelle. Mais vous ne créez rien avec cette personne. Parce qu'en fait, vous pourriez faire tout ça avec votre meilleur ami, hein, avec un sex friend, entre guillemets. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, moi, j'ai des amis, pareil, hein, ils ont eu des enfants très rapidement dans leur histoire, mais ils sont toujours ensemble, c'est leur après, ils en ont refait derrière des gosses. Donc voilà, l'enfant est tout sauf un élément perturbateur, j'ai envie de dire, dans des relations amoureuses. Enfin, en tout cas, ce serait un problème. Si l'enfant vient bousculer une histoire d'amour, c'est qu'il y a un problème.
Okay. Bien sûr, d'ailleurs, je me permets de rajouter, moi j'en suis le parfait exemple. J'ai demandé ma femme en mariage, j'ai mis le genou à terre, ça faisait 3 mois qu'on se connaissait.
Ah, c'est beau ça.
Et on a eu mon fils, donc je crois que ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Elle est tombée enceinte, enfin je veux dire, tout s'est passé très très vite. Par contre, on était deux personnes qui avaient déjà vraiment réfléchi aux objectifs de vie, en fait. Mmh. Et on savait ce qu'on voulait dans la vie, on s'est rencontrés, on a tout de suite été très clair sur nos envies, sur nos besoins, mais vraiment les besoins fondamentaux. Et du coup, ça a matché de fou. Et ça fait des années qu'on est ensemble et on vit notre meilleure vie. Et plus le temps passe, plus notre vie se pose et plus on est heureux, en fait. Ce qu'il faut, c'est de l'engagement et un besoin et des envies communes, tout simplement. Et je me permets de faire une petite, un petit résumé, on va dire, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais vraiment, la famille, les enfants, tout est lié, votre travail, tout s'imbrique. Il faut vraiment que vous voyez votre vie dans sa globalité. Vous posez des questions sur est-ce que je dois avoir un enfant, comment je dois l'éduquer, tout ça. Si le reste de votre vie n'a aucun rapport avec ça, si vous êtes dans un boulot qui ne vous permet pas d'être un bon mari, une bonne femme, ça ne marchera jamais en fait. Vous devez vraiment réfléchir à tous les aspects de votre vie, à votre vie dans sa globalité, tout simplement. Oui. Et en fait, les choses vont se faire naturellement. Si vous avez un bon boulot, si vous trouvez la bonne personne, les enfants, vous n'allez même pas y réfléchir. Moi, je ne me suis même pas posé la question de « est-ce que j'ai envie d'un enfant ou pas avec ma femme quand je l'ai rencontré ?» Ça s'est fait naturellement parce que les aspects de ma vie, la manière dont elle vivait, tout a matché tout seul, en fait. Naturellement, c'est venu. Après, il y a du technique sur le quotidien. C'est-à-dire que oui, on va peut-être se dire, purée, on vient de se rencontrer, ça va un peu vite. C'est normal, il y a des craintes. Mais il y a de l'engagement. En face de moi, j'avais une femme qui répondait à toutes mes attentes. Il y avait une femme qui était d'aplomb, une femme qui se respectait, qui avait un métier dans lequel elle ne s'exposait pas trop. Je voyais ses priorités, en fait. Donc, j'ai pu me dire, OK, même si demain, il y a un pépin, cette femme, je serais fier qu'elle soit la mère de mes enfants. Cette femme, je serais fier qu'elle soit ma femme. Voilà, peu importe ce qui va se passer derrière, c'est avec elle que j'ai envie de m'engager.
Ouais, moi je connais des gens, ils ont été 10 ans ensemble et ils se sont séparés. Ils étaient ensemble de leurs 20 ans à leurs 30 ans et ils se sont séparés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, s'ils ont été capables de rester 10 ans ensemble, en fait, c'est juste.
C'est de la coloc.
C'était ça. C'est qu'en fait, ils sont arrivés, ils ont usé. Leur relation, alors que au bout de quelques années, s'ils avaient fait en sorte que leur couple soit fécond, qui porte du fruit, qui leur donne une raison de continuer, parce qu'en effet, si alors je fais pas des enfants un tout, mais bon, la famille, c'est un peu ça. Et comme je vous dis, la finalité d'une relation entre un homme et une femme, c'est de procréer, forcément. C'est le but de la relation sexuelle dans son tout. Quand je dis sexuelle, c'est pas juste génital, hein, je parle dans l'entièreté. C'est l'homme et la femme se mettent ensemble pour constituer leur descendance, etc. Bon, bref, désolé, je me suis un peu perdu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils ont été 10 ans ensemble, ils se sont usés, et au bout de 10 ans, ils se sont séparés. Mais ils auraient eu des enfants beaucoup plus tôt, au bout de quelques années de relation. Mais ils auraient fondé leur famille. Et il y avait cet amour qui était là. Alors peut-être à considérer que c'était un vrai amour et pas juste qu'ils faisaient semblant. Leur couple aurait eu énormément de sens. Ils auraient commencé à bâtir et vous bâtissez en faisant des enfants, en prenant tous ces choix, en les élevant. Tout l'amour que vous mettez dans vos enfants, c'est un amour aussi pour votre femme, parce que vous éduquez votre enfant. Enfin, tout est fait pour tout va pour cet amour collectif qu'est une famille. Il y a des gens qui ont un enfant au bout de 2 mois et d'autres au bout de 10 ans ils se séparent parce qu'ils n'ont pas réussi à rendre leur couple fécond. C'est du gâchis. Vous arrivez à 30 ans et certaines personnes vont devoir tout recommencer à zéro. C'est extrêmement. Enfin voilà, on se dit quel gâchis, quelle perte de temps. Désolé, c'était un peu brouillon, je sais plus où je voulais en venir au départ.
Mais ce que tu as dit, c'est très vrai sur le sens. Il faut vraiment donner du sens à sa vie. Et finalement, aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on fait au quotidien, on travaille d'arrache-pied pour faire quelque chose, même si c'est notre passion, même si on aime ce qu'on fait. Si demain, on avait la possibilité d'avoir les mêmes revenus sans avoir à faire notre boulot, en fait, 99% des gens arrêteraient de bosser. Donc, notre boulot, aujourd'hui, n'est pas notre priorité. Tirer un coup à droite à gauche avec des inconnus et tout, ça n'a pas de sens. On le sait, on s'amuse, c'est du plaisir comme ça, ponctuel, c'est de l'égoïsme, ça n'a pas de sens. Si vous mettez du sens dans votre vie, en fait, toutes ces questions-là, elles vont s'effacer toutes seules, en fait. Fonder un foyer, avoir des enfants, c'est la base même de l'espoir. Et la vie, c'est l'espoir, en fait. Je veux dire, il y a des gens, les populations ont continué de faire des enfants pendant les guerres, pendant les génocides. Enfin, je veux dire, je vais prendre l'exemple des Noirs. Ils ont été victimes d'esclavage pendant 400 ans, ils ont continué à faire des enfants. Parce qu'on est ici pour ça, en fait. C'est l'espoir, la base de la vie, c'est de procréer, c'est d'apprendre, de grandir, et ensuite de donner ça, de transmettre aux générations futures.
Oui, on est la seule espèce qui se pose la question de la procréation.
Mais bien sûr. Et puis surtout, ça d'ailleurs, c'est un point qui pour moi vraiment est normalement va vous un peu vous réveiller si vous n'êtes pas sûr de vous, mais on vous enlève depuis 40 ans, 50 ans cet idéal. La famille, les enfants, tout ça, on vous balaye ça, on vous dit que c'est mauvais. Mais en échange, on vous offre quoi? Quel bonheur finalement? Vous ne faites pas d'enfants, vous vous amusez, ne restez pas, vous ne vous engagez pas, vous ne vous mariez plus. Mais en contrepartie, vous avez quoi? Et moi j'en connais, et je pense que je suis loin d'être le seul, des gens qui ont de l'argent, qui partent en vacances tout le temps, qui ont des grosses bagnoles, mais qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'il n'y a aucun sens à ça. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire, on vous fait consommer, on vous fait vous divertir en permanence, mais ça n'a pas de sens. Et finalement, on a des gens qui vivent comme ça pendant des années, des années, des années, sans rien construire de concret, tout simplement.
Ouais, donc, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, dans ce discours-là, qui remet le discours soit individualiste pur, narcissique, soit le discours même gauchiste, anti-famille, maintenant c'est le no kid pour la planète, on ne fait plus d'enfants pour la planète, c'est-à-dire qu'on conserve la planète mais pour la transmettre à personne, du coup.
C'est ça.
En fait, donc, ils peuvent autant remettre en cause ce modèle-là, nous convaincre que c'est chiant et que c'est mieux d'être seul, mais en fait, non, pour l'instant, ils n'ont rien proposé. Dans leur alternative, il n'y a rien. Il y a la solitude, le désespoir et l'euthanasie, en fait. Parce que passé 65 ans, quand on ne peut plus jouir comme avant, on veut pas, on peut plus se regarder en face et on a une angoisse, gigantesque. Ce qui nous attend, c'est retourner au néant, en fait. Et même la solitude de tous les jours, cette espèce de vie malheureuse où on ne vit que pour soi-même, l'horreur, quoi. Je m'aime pas assez, en fait, pour vivre pour moi-même. Enfin, c'est le cauchemar absolu. Ce que c'est hyper intéressant. intéressant ce que tu dis, parce que on n'a rien, on nous propose rien en échange qui soit aussi bien que le confort et la chaleur d'une famille et, d'enfants qui vous aiment. On nous a rien proposé en face. Donc si un jour il trouve le modèle amical, comme dirait Geoffroy de la Gannerie, parce que il veut montrer que le modèle familial amical vaut tout aussi bien que le modèle familial. Il veut même qu'il y ait des allocations amicales. En l'occurrence, c'est des délires gauchistes, etc. Mais ils ne proposent rien et surtout ils n'ont pas réglé la question de la fin de vie. Comment ces gens vont vivre leur fin de vie? Évidemment, il y a des gens qui ont des enfants qui finissent dans des mouroirs parce que leurs enfants les ont abandonnés. Mais sachez qu'en faisant des enfants et en ayant beaucoup de petits-enfants, du coup, vous réduisez vachement les chances d'être abandonné dans un mouroir. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, ce que je voulais rajouter aussi tout à l'heure par rapport aux relations. En effet, tout se base sur la bonne personne que vous allez rencontrer. C'est une question qu'on a pas mal reçue. C'est trouver la bonne personne, etc. Sachez que donc l'enfant, comme on disait, n'est pas un perturbateur d'une relation amoureuse. C'est censé être plutôt une logique continuité. Mais surtout, l'amour, la relation avec l'autre, sachez que c'est un choix de tous les jours de choisir, de rechoisir cette personne. C'est un choix. Vous allez dire oui que... Alors, chaque jour, vous allez devoir reprendre ce choix. Oui, j'aime cette personne. Oui, je veux lui être fidèle. Et en fait, user de notre volonté est beaucoup plus solide et beaucoup plus ancré que d'attendre que ce soit nos sentiments qui vont nous guider une fidélité. Si c'est vos sentiments, vos passions, elles sont désordonnées, elles vont dans tous les sens, elles vont vers le plus appétissant, le plus attrayant, ce qui vous fait, nous pour les hommes, ça va être le désir sexuel. Si on écoute seulement nos sentiments, on va être conduit par ça, on va être attiré, bah oui, par aller séduire une autre femme parce que ça apporte beaucoup de satisfaction. Et là, vous écoutez des choses qui sont désordonnées, il faut prendre ce choix d'aimer la personne et de vouloir lui être fidèle chaque jour et de vous dire que vous ne pouvez rien construire si vous suivez ses passions parce que elles seront toujours là, ces passions. Elles seront toujours là. Vous êtes un homme, vous avez des pulsions et l'homme est capable d'aller butiner partout. Mais par contre, sa raison, sa volonté va lui permettre de une bonne fois pour toutes, de se dire que non, je ne vais pas écouter ses passions, je vais reprendre ce choix tous les jours d'aimer cette personne, de lui être fidèle. Et en fait, ce choix vous permet de construire tellement de choses solides et de choses qui vous rendent heureuses et qui sont sécurisantes, vous gagnerez tellement plus à rester dans cet ancrage et à bâtir qu'à écouter vos pulsions, vos passions, à poursuivre ces pulsions. Vous perdez votre temps et souvent on dit que le body count, plus une femme a eu de partenaires avant de se marier, plus elle va avoir du mal à être fidèle. Je pense que pour les hommes c'est aussi le cas. Et encore plus dur parce que ça peut être encore plus dur pour les hommes parce qu'on a des pulsions très fortes. C'est un choix de tous les jours d'aimer cette personne. L'amour, alors déjà l'amour c'est des actes, sachez que votre amour avec votre conjoint vous le construirez vraiment en posant des actes d'amour parce qu'en fait l'amour c'est comme les belles déclarations, c'est que du vent. L'amour n'existe pas. Il n'y a que des actes d'amour qu'on prend. Tous ces actes laissent une trace dans votre intellect, sur votre âme et chez l'autre. Parce qu'en fait, les gens ont peur de construire leur relation et de faire des enfants parce qu'ils ont peur un jour de plus aimer l'autre et du coup de s'engager. Mais en réalité, c'est un choix que vous prenez. C'est le oui que vous avez pris à votre femme le jour de votre mariage ou le jour où vous êtes engagé. Vous devez le prendre tous les jours. Et juste, je termine, désolé, c'est très long, mais c'est pour ça que le mariage est important, c'est pour ça que ça paraît con de se dire oui devant, que ça soit même un maire, ça a du sens, parce que bon, évidemment, moi je mets plus d'importance à la religion, mais se dire oui devant Dieu, ou se dire même oui devant un officier d'état civil, devant une institution, avec le peu de respect que je peux avoir pour ces institutions, mais en fait, se dire oui devant la communauté, a beaucoup plus de poids et vous engage beaucoup plus que juste un oui en l'air, un accord tacite. Dire oui dans cette institution du mariage, ça vous engage réellement. Vous ne vous rendez pas compte, mais si, ça vous engage. Même si vous ne le pensez pas.
Et ça, vraiment, c'est ce que je vais vous dire, c'est un retour d'expérience. Donc, ce n'est que mon avis, mais quelles que soient vos idéologies, quel que soit votre bord politique, quel que soit votre passé, quel que soit le mode de vie que vous visez, construire dans un foyer, c'est quelque chose qui a un sens incomparable. Il n'y a rien dans la vie ici-bas qui vous offrira la reconnaissance, l'amour, la satisfaction que vous offre une famille, un foyer, votre femme, vos enfants au quotidien. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai deux enfants, j'ai une femme qui n'attendent que de me voir, qui ont attendu toute la journée que papa rentre à la maison. J'ai même un chat qui, quand je rentre, vient sur moi me faire un câlin. C'est quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous rendre fier de vous comme rien d'autre. Moi, aujourd'hui, il peut m'arriver n'importe quoi. Je peux tout perdre. Je peux être la risée du monde entier. Je suis indestructible psychologiquement parce que j'ai accompli ce qui a le plus de sens, c'est la dévotion envers sa famille, tout simplement. On est aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on est en permanence dans la recherche de validation. On cherche à être validé en permanence. Donc vous avez un combat quotidien de vous montrer sous votre meilleur profil, de montrer que vous avez une meilleure vie que les autres, que vous avez réussi. Donc on cherche en permanence à être validé. Alors que vous fondez un foyer, vous vous engagez avec une femme, vous faites des enfants, mais vous n'aurez plus besoin de rien en fait. Parce que l'accomplissement que vous aurez et le retour que vous en aurez au quotidien, il vous nourrira pour l'éternité en fait. Moi demain je peux mourir, alors, je parle un peu, c'est pas très joyeux, mais réellement aujourd'hui j'ai accompli assez pour mourir tranquille en fait. Mmh. Et ce qui va se passer derrière, c'est que du bonus. J'ai un sentiment d'accomplissement qui est incomparable, en fait. Il peut m'arriver n'importe quoi, j'ai plus besoin de rien. J'ai accompli tout ce pourquoi je suis ici, en fait. Je suis dévoué à ma femme, à mes enfants, et ça me nourrit bien plus que n'importe quoi, qu'une belle moto, que faire de la muscu et montrer mes tablettes de mes abdos sur les réseaux, peu importe. Je peux demain me retrouver à devoir balayer le trottoir. Je suis fier de ce que je suis, parce que quand je rentre le soir, j'ai ma femme qui me valide, qui est fière d'avoir un mari comme moi, et j'ai des enfants qui sont fiers d'avoir un père comme moi. Donc vraiment, il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui compte, c'est donner du sens à sa vie, parce que sinon ça n'a aucune... ça ne sert à rien en fait, c'est donner du sens à sa vie. Et vos enfants, votre femme, votre foyer, c'est la seule solution valable.
Ouais, mais là j'ai l'impression qu'on touche, on est pas loin de toucher de ce que c'est le bonheur, c'est cette capacité à on a tellement accompli le plus important de ce qui va faire notre bonheur que je vais pas dire on peut s'en détacher parce que c'est ce qu'on a de plus cher, mais notre âme est remplie, si elle retourne à Dieu, elle est comblée, il y a pas cette angoisse. Et c'est vrai que ça me fait penser, il y a des gens qui courent après les plaisirs, les choses qui vont les rassurer. Il y a la séance de psy, il y a le voyage parce que j'ai besoin de m'évader, il y a aller à un concert parce que voilà, j'ai besoin d'écouter mon artiste préféré, il y a ce bon resto en particulier parce que on a besoin de ce resto pour être heureux, parce que c'est la petite bouffe qu'on aime, j'ai besoin d'avoir mon abonnement à cette revue, mais c'est tellement des choses qui sont matérielles, alors que c'est exactement ce que tu disais, c'est quand notre foyer nous entoure et là sur lequel on peut se reposer, mais il est là le bonheur. Et on n'a rien besoin d'autre presque. On peut perdre notre taf, on peut être humilié quand on peut prendre notre femme et nos enfants dans nos bras, mais quelle force, mais c'est incroyable. Et là-dessus je souscris à 200%. Tous ces gens qui courent après leur bonheur, qui fuient une angoisse en fait, ça, ils fuient une angoisse à travers, comme je disais, des concerts, des machins, des trucs, même la drogue, l'alcool, ils passent à côté d'un truc simple, c'est s'engager avec quelqu'un et avoir des gosses, et ces gens combattent souvent ça, ils combattent ce modèle parce qu'ils ont l'impression de s'enfermer, les gens n'ont pas envie de s'engager aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est un enfermement, ah oui, mais si je reste avec la même personne, oui, mais qu'est-ce qui se passe si un jour on fait plus l'amour, vous ferez peut-être. Si vous faites plus l'amour, c'est peut-être que vous aimez plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, les enfants, mais est-ce que je pourrais plus voyager? Comme si les gens voyageaient plus quand ils avaient des enfants. Il y a une angoisse de l'engagement, alors qu'en fait, leurs angoisses disparaîtront en s'engageant, en créant quelque chose. Alors oui, c'est quelque chose de créer une entreprise, de créer une association. On peut avoir énormément de satisfaction là-dedans, mais rien ne vous remplira plus et ne vous qu'une famille. Et là-dessus, je vais rajouter à ce que tu dis. Quand j'étais à VA, il y a eu l'affaire Obono. mais je peux même pas vous décrire la violence de cette polémique nationale. C'était l'horreur. Il y a eu le moment où je me suis fait licencier, moi, il s'est fait balancer par quelqu'un. Une discussion de notre équipe qui était sortie dans Libération. J'imaginais même pas le sentiment de trahison qu'il y avait. Alors ça, c'était un vrai problème, la trahison. Moi, j'avais des gens dans mon équipe qui étaient complètement perdus, qui transpiraient, qui pleuraient, qui étaient en sueur, qui étaient complètement paniqués. Mais j'en avais rien à branler. C'était violent. On se faisait trahir, ça sortait dans Libération, donc ça n'avait pas plaisir. Il y avait une taupe parmi nous, mais juste, je suis rentré chez moi, j'étais avec ma femme, j'ai décompressé un bon coup, et j'en avais rien à faire. J'en avais rien à faire parce que j'avais ça qui me donnait une force incroyable, c'était un refuge. Ça vous protège, c'est la cellule impénétrable, c'est la forteresse imprenable.
Chers amis, c'est la fin de ce premier épisode. Le second arrivera très vite. N'oubliez pas de noter ce podcast, de nous faire vos retours sur mon compte Baud-1 ou Grand Lucas Podcast. Merci à vous et à très vite.